forcément sinistre et que ce qui est marrant n'est pas forcément anodin.
Il s'agira simplement de parler pour dire quelque chose.
On essaie de faire de la radio quand même.
Moi, je n'avais pas de méthode, mais j'avais de la curiosité et mieux que...
Une sorte de tambouille qui se fait.
C'est de l'artisanat radiophonique. C'est une petite équipe qui va de ville en ville. Donc vraiment, c'est quelque chose de magique.
On a les arrière-grands-parents et les bébés dans les landaux.
La radio-télévision française et la loterie nationale vous proposent...
Je remercie beaucoup France Inter, sans qui je serais sur Europe 1.
France Inter... C'est classe.
Cette semaine,
auditeur de la radiodiffusion française,
France Inter fête ses 50 ans.
À partir de vendredi,
3 jours d'émission,
3 jours de fête,
en direct et en public de Toulouse,
Nantes,
Clermont-Ferrand,
Lille,
et aussi au sommet de la Tour Eiffel,
pour terminer par le théâtre de l'Odéon à Paris,
et un grand concert de clôture en partenariat avec la Gaîté Lyrique, à suivre sur l'antenne et en vidéo sur franceinter.fr.
Nous entendez-vous bien ?
Parfaitement bien.
Samedi,
à partir de 16h,
Patrick Cohen investit la scène du Théâtre du Nord à Lille avec les grandes signatures de l'info.
Avec nos invités, des journalistes de France Inter ou des grands anciens, en direct et en public avec les élèves de l'école de journalisme de Lille.
Entrée libre et gratuite,
alors,
dans la limite des places disponibles.
N'oubliez pas.
France Inter fête ses 50 ans.
Avec la MGEN, Mutuelle Santé, Prévoyance, Autonomie Retraite.
Rendez-vous dès maintenant
sur franceinter.fr.
Et c'est 50 ans, et ça se fête, et ça continue sur France Inter, avec Daniel Merbel, là-bas, si j'y suis, c'est parti.
Bonjour, voilà, je fais du toilettage de chien. Ben, j'ai remarqué que quand votre équipe partait en reportage, il était bien souvent accueilli par un chien qui aboyait. Tous les chiens au salon, à 3h15, 3h20, se mettent à aboyer, et c'est assez marrant. Dany, de Neuville-les-Dieppe.
Quand Marie Le Pen donne une interview avec un bonnet rouge, le journal Minute offre un bonnet rouge pour tout abonnement. Marie Le Pen invite les gens sur les réseaux sociaux à remplacer leurs photos par un bonhomme avec un bonnet rouge. Le réseau Identité de l'extrême droite a déposé la marque Bonnet Rouge à l'INPI. Eh oui, les bonnets rouges, quand on mélange les torchons et les serviettes, quand le message n'est pas clair, eh bien il ne faut pas s'étonner si les serpillères s'invitent dans le jeu.
Alain Juppé soutient la grève des profs des classes préparatoires, qui refusent de faire 10 heures par semaine au lieu de 9 actuellement, pour environ 4000 euros par mois. Il s'agit donc, ce projet, de revaloriser le salaire des profs en ZEP. Et Juppé dénonce cette mesure comme un dénigrement des élites françaises. Rappelons simplement que M. Juppé, énarque, est également normalien et ancien élève des classes préparatoires. Sa femme Isabelle aussi. Et sa fille, Clara, 18 ans, est actuellement elle-même en classe préparatoire. Salut Bourdieu, rien de nouveau sur la reproduction des élites françaises, ni d'ailleurs dans leur mentalité.
Bonjour, dernier café repère de l'année à Grasse, le jeudi 5 décembre à partir de 19h au lieu habituel, c'est-à-dire au bar chez Sabine, 38 chemin de l'Orme, c'est près du lycée Tocqueville et du centre commercial Leclerc. Le thème, hélas, d'actualité, l'esclavage moderne. C'était Brigitte de Montsartou.
Du Pérou jusqu'en mer de Chine, j'ai entendu tous les refrains. J'ai invité dans ma cuisine le philharmonique de Berlin, mais jamais mon oreille fine n'a perçu de son plus divin que la douce voix de Christine du Limousin. Régis, de Nîmes. Mais non, je déconne, c'est Georges-Philippe de Loinec. Kenavo viva, portez-vous bien.
Ça, on ne l'aurait pas imaginé il y a 50 ans. ce qu'on vient d'entendre là, c'est-à-dire des auditeurs qui prennent leur portable et qui le promènent autour d'eux pour faire entendre leur voix et leurs revendications. Aujourd'hui, comme toute l'antenne, en fait, les 50 ans de France Inter. L'année prochaine, on fêtera les 25 ans de là-bas, si j'y suis. Mais là, pour l'instant, c'est les 50 ans de France Inter. Mais tout le monde ne sera pas sur la photo. Et ce que vous allez entendre dans cette heure de là-bas, si j'y suis, le son sont sur la photo et d'autres ne le sont pas. La radio est un média familier, intime, éphémère. Et son influence est très profonde dans la fabrique de l'opinion et de la sensibilité commune. Et cet anniversaire nous donne l'occasion, eh ben, de prendre conscience, peut-être un peu mieux, des enjeux et de l'influence et de la puissance de ce média si peu étudié et si peu critiqué. Et oui. On va parler un peu de tout ça, peut-être à travers les perspectives, les voix venues du passé. Aujourd'hui, beaucoup de chroniqueurs, vous allez découvrir tout ça. Mais auparavant, d'abord, des échos de la manif d'hier à Paris, révolution fiscale. Manifestation pour la révolution fiscale à l'appel du front de gauche entre la place d'Italie et Bercy. Anaël Verzo était dans la foule.
Un petit soutien du machiniste du métro, oui.
Alors, il y a quelques bonnets rouges, mais c'est pas des bonnets rouges bretons, hein. C'est plutôt les bonnets phrygiens ici.
Ah oui, là c'est pas pareil. Non.
On taxe le capital. Révolution fiscale, c'est l'égalité devant l'impôt. Pas d'exonération, pas d'évasion fiscale. L'argent existe. N'hésitez pas à habiller vos manteaux de vos humeurs. Contre ceux qui osent mettre des trombes des rouges. L'Oréal, Total, Sanofi, Varin, ils peuvent payer, l'argent existe.
Qu'est-ce que vous avez là? Vous avez des autocollants?
Alors, c'est des cartes? Nous avons des badges du Parti communiste. Nous, on veut des états généraux de la révolution fiscale, c'est-à-dire une appropriation citoyenne. Ça voudrait dire une égalité devant l'impôt. Et qu'est-ce qu'on en ferait de cet impôt? Qui doit payer? À quelle hauteur, etc. Et pour après aller déposer un projet de loi au Parlement au printemps prochain. Parce qu'on peut effectivement légiférer. Il y a trop d'exonérations fiscales et surtout le capital n'est pas du tout taxé.
Et là c'est Jean-Luc Mélenchon.
L'ennemi, ce sont les 200 000 émigrés fiscaux en Suisse qui volent 85 milliards par an au trésor public. Ce sont les profiteurs des 120 milliards de dividendes supplémentaires qui, chaque année, prennent le pain quotidien de 4 millions de travailleuses et de travailleurs au SMIC. Jamais l'impôt n'a autant protégé les privilégiés. Tout ce qu'il faudra payer a été pris par les uns sur le dos des autres. C'est le moment qu'a choisi le président François Hollande. En personne, pour aggraver la charge.
En mesure. Je vous entends un peu de loin parler là. Déjà, je suis contente de trouver des jeunes.
Oui, il y en a. Les jeunes communistes, toujours présents.
Et vous avez quel âge?
Moi, j'ai 22 ans. Alors pourquoi on est là? Sur le mot d'ordre de la justice fiscale, on voit que le taux d'imposition des plus grosses entreprises baisse de plus en plus. On a des petites entreprises qui sont imposées à 30% en moyenne et des grandes entreprises qui sont imposées entre 7 et 11%. C'est là qu'on voit qu'il y a quand même un réel problème de taxation qui n'est pas du tout progressif, qui n'est pas du tout égalitaire pour la population. On voit vraiment que c'est toujours les mêmes qui payent. Donc on est en train d'agrandir la précarité en France, de détruire tout le tissu populaire français.
Et d'accroître les inégalités.
La TVA qui monte, on l'a à gauche de la hanche.
Chers amis inconnus, il est toujours troublant de prendre la parole dans cette grande nuit étrange, peuplée d'invisibles oreilles, qui se nomme la radio.
Quelquefois...
Les auteurs du programme ont essayé de satisfaire plusieurs de vos désirs, en même temps que votre goût pour la musique et pour l'intonation fidèlement reproduite. C'est là en tout cas notre vœu. Et nous vous remercions d'avance de vouloir bien vous associer à sa réalisation. Car nous aurons besoin de vos jugements comme de votre confiance.
Tous les matins je me réveille quand vient chanter à mon oreille le transistor de mon voisin qui matinal se met en train en écoutant Intermatin.
Écoute bien, visiteur. Quoi qu'il t'en semble, la chanson vient d'en haut. Sans t'en douter, tu es parti de la source même, des balbutiements héroïques d'hier qu'on appelait la TSF, et sans t'en douter, tu montes vers ce qu'on appelle aujourd'hui la radio.
Aujourd'hui, la radio. Aujourd'hui, tout par-delà, la nouvelle maison de la RTF.
Un ensemble fonctionnel à l'image de notre époque. Une cité des voix.
Cité des voix par l'homme et pour l'homme.
Alors, ces auditeurs qui veulent bien écouter attentivement peuvent maintenant tourner le bouton de leur poste de radio pour l'année 1963.
En direct avec vous,
Daniel Mermet, salut, c'est la base où je suis. France Inter fête ses 50 ans, mais tout le monde ne sera pas sur la photo.
Flight number 2, arriving from New York.
À tant d'idées, de mots, d'images, de sons.
Le général de Gaulle.
Lancé sur des ondes. Merveilleuse.
Discours d'inauguration de la maison de la radio.
À toutes ces rafales de suggestions.
14 décembre 1963.
Déclenché vers la foule secrète des esprits. Bref, à la radio, fallait-il une maison ? Oui, car pour étendues que soient ses limites, disperser ses sources et varier ses émissions, la radio est une œuvre humaine, autrement dit collective. Sans doute se nourrit-elle de la capacité des individus, mais pour être valable, il lui faut l'effort conjugué des équipes. Et c'est pourquoi ce bâtiment complexe et imposant, mais aussi unitaire et circulaire, est le signe de l'organisation, de la concentration et de la cohésion qui sont nécessaires à son audience et à son influence.
Mon général, je vous prie de bien vouloir abaisser cette manette, c'est le geste symbolique de l'inauguration.
Celle-ci. Voilà.
France Inter, il est 9h06, comme chaque samedi à la même heure, la chronique de Michel Drucker.
Il y a encore deux ou trois ans.
Nombreux sont les congressmen qui ne manquent pas d'humour au Capitole.
Il faudrait pourtant dissiper une équivoque quand ça tienne complaisamment les communistes.
Ah, quelle responsabilité! incombe à ce vaste ensemble, continuait le général de Gaulle, président de la République, ce 14 décembre 1963, un discours sans papier, appris probablement par cœur, improvisé sans doute, inspiré peut-être par Malraux, et magnifique discours, plein de souffle, plein d'ambition, plein de grandeur, et qui fut suivi, comme l'on sait, d'un contrôle par le gouvernement, les gouvernements, un contrôle de l'information. C'est comme ça qu'on voit aujourd'hui, rétrospectivement, c'est le début de France Inter et de Radio France, de façon plus générale, dans ces années 60. Et puis, peu à peu, eh bien, l'histoire est longue. Ces 50 années ont été une véritable saga. Mais ce qui ressort dans l'opinion, c'est que, eh bien, il y avait un contrôle, il y avait un ministère de l'information, M. Perfit, on connaît toutes ces histoires. Et puis, peu à peu, on se serait bien libéré de ces emprises gouvernementales, politiques, jusqu'aujourd'hui où, bien sûr, nous sommes absolument libres de dire ce que nous voulons. Il n'y a plus aucun lien. Nous ne sommes plus, nous avons quitté cette voie de son maître de naguère. On va voir à travers les exemples et les archives que nous avons retrouvées, on va voir est-ce que c'est vrai, est-ce que ça fonctionne toujours. Pierre Bourdieu disait « Les intellectuels sont enfermés dans l'illusion de la liberté ». Il se pourrait bien qu'ici même, dans cette maison, et plus généralement dans les médias, les journalistes, ceux qui vous causent à longueur de journée et qui volent votre bien, bien évidemment, soient eux aussi prisonniers de cette illusion de la liberté. Voilà la réflexion à laquelle nous vous invitons aujourd'hui, en ce 50e anniversaire de la Maison de la Radio, à travers ces exemples retrouvés, déterrés, choisis, France Inter, fête ses 50 ans, mais tout le monde ne sera pas sur la photo.
Avec nos studios presse-boutons, eh bien nous n'avons plus aucune excuse et nous sommes obligés moralement de réussir nos émissions.
Avec vous, voici Jean Nocher.
Pardonnez ce soir un direct exceptionnel. Vous êtes nombreux à vous indigner des injures, des calomnies et des agressions que j'ai à subir de la part de publications ayant, il est vrai, fort peu de lecteurs en général. Et vous me demandez de riposter en m'envoyant les magnifiques protestations que vous leur adressez. Si je ne réponds jamais publiquement aux attaques, c'est d'abord parce que vous le faites individuellement pour moi et que de telles tristesses ne méritent pas votre généreuse audience. C'est ensuite parce que ces insultes viennent toutes des ennemis de mon pays et qu'elles tendent ainsi à démontrer la correction et l'efficacité de mon humble tâche quotidienne. Quand, par exemple, un journal qu'on sait téléguider de l'étranger intime au gouvernement de la France l'ordre de me faire taire, c'est évidemment la preuve que je parle en bon français et que ça gêne ceux qui ne nous veulent pas de bien. Alors, c'est parfait. Et voilà pourquoi je suis fier d'être injurié en votre nom à vous, les Français qui y croyaient. Et je vais vous faire comprendre et faire comprendre aux intellectuels de l'anti-France ce qu'ils n'ont pas compris. Si on ne les écoute pas, eux qui sont si intelligents, et si on m'entend, moi qui suis si bête, est-ce que ça ne serait pas parce qu'il y a entre vous et moi un point de contact qu'ils n'ont pas, eux, le pur et simple bon sens, toujours, et quelquefois un peu de cet esprit qu'à l'étranger, on veut bien précisément appeler français. À demain, bonsoir.
En direct avec vous, c'était Jean Nocher.
En 1967, Jean Nocher, polémiste très très direct, très conservateur, également, vous l'avez entendu, en 1947, à propos de Jean-Paul Sartre, il écrivait « Enterrons cette pourriture et que la jeunesse se lève pour donner un autre souffle à la France, une morale qui ne mène pas à coup sûr, au plagiat, au masochisme, à l'inceste, à la pédérastie, à la démence précoce, à l'impuissance psychique. L'heure va sonner où une autre école rendra à la France son vrai visage, un visage au regard droit, monsieur Jean-Paul Sartre. » Ainsi s'exprimait Jean Nocher. La plupart d'entre vous ignorent ce nom, mais à l'époque, oui, c'était vraiment une voix de la radio et de la radio publique. Les polémistes, les chroniqueurs y allaient carrément. Ça nous fait sourire aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que l'anti-France? Et on va voir si effectivement tout cela a disparu, ce ton. Et c'était sur fond de guerre froide, il ne faut pas l'oublier. Un autre qui a été important parmi les chroniqueurs, c'est évidemment Michel Droit. Il était un très très proche du général de Gaulle, un admirateur du général de Gaulle. Il était un très grand journaliste, il a fait partie de l'Académie française à la fin de sa vie, et comme son nom l'indique, Michel Droit était à droite, et il ne s'en cachait pas, lui aussi un polémiste très très écouté et très très présent sur cette antenne, sur France Inter, jusqu'en 1981, lorsque la gauche est passée. Michel Droit.
France Inter, il est 9h06, comme chaque samedi à la même heure, la chronique de Michel Droit.
Il y a encore 2 ou 3 ans, quand l'un d'entre nous annonçait, en s'appuyant sur quelques exemples d'ailleurs faciles à distinguer, l'arrivée imminente de la vague nauséabonde du cinéma pornographique, on lui riait au nez et on le présentait comme un père la pudeur, complètement rétrograde, un Cassandre débile, s'affolant pour presque rien, pour une moitié de fesse ou pour un quart de beurre, et ne faisant au fond qu'attirer l'attention sur quelques manifestations tout à fait négligeables dont nul n'aurait jamais parlé si nous autres n'avions pas commencé à le faire. Eh bien, je vous assure qu'aujourd'hui, le fait d'avoir vu juste, et ce n'était d'ailleurs pas très sorcier, et même d'avoir eu raison au-delà de ce que nous pouvions craindre, ne nous réjouit nullement. Car j'ajoute que si l'on nous riait au nez quand nous annoncions ce qui est arrivé, on nous présentait aussi comme les ennemis réactionnaires et répressifs, allons-y carrément, de la plus élémentaire liberté d'expression. Or, je vais vous dire une chose. J'ai personnellement fait partie, pendant plusieurs mois, de cette fameuse commission de contrôle des films, qu'on appelle aussi parfois commission de censure. Je puis vous dire que lorsqu'il m'est arrivé de demander, pour la modeste part qui était la mienne, qu'on épargnât au public tel film particulièrement obscène et dégradant, je n'ai jamais, mais vraiment jamais eu le sentiment de porter la moindre atteinte à la moindre liberté d'expression, pour l'excellente raison qu'il n'y avait aucune forme
d'expression dans ce genre de film, mais simplement l'étalage d'une sorte de vomissure. Et pourtant, à ce moment-là, nous n'en étions pas au hardcore où l'on nous montre aujourd'hui, vous le savez, sur l'écran, des actes sexuels réellement exécutés et en général parmi les plus gracieux, je passe. Je sais bien que la liberté ne se divise pas. C'est une très belle formule. Seulement, la liberté ne devrait pas non plus pouvoir se prostituer. Or, si pornographie dérive bien du grec « porné », qui signifie « la prostituée », ce n'est à rien d'autre qu'à une prostitution de la liberté d'expression que nous assistons lorsque le droit est accordé d'envahir nos écrans, nos salles, nos quartiers, nos journaux, par l'intermédiaire de la publicité, à des films produits et réalisés par des gens qui ne font donc rien d'autre qu'un métier de proxénète et interprété par des chevaliers et des chevalières à la triste fesse qui ne font rien d'autre que de prostituer ce qui leur sert de corps, non pas entre les quatre murs d'une chambre d'hôtel de passe, mais sur un écran devant des milliers de spectateurs. Il est donc évident que même si le gouvernement le déplore, le moment est venu pour lui de donner le coup d'arrêt à la liberté, non pas de s'exprimer, mais à la liberté de l'obscénité. Le coup d'arrêt au sinistre étalage du vice, au sordide jaillissement de... Enfin, bref. Alors, bien sûr, il faudra pour cela passer outre au tortillement d'intellectuels en délire, toujours prêts à confondre les fleurs du mal avec les jouisseuses volcaniques et à prolonger de 6 lettres le prénom de Madame Bovary pour essayer de faire croire qu'elle s'appelait Emmanuel. Bien sûr, il faudra rester sourd aux hurlements de ceux qui ont trouvé un moyen facile de faire fortune en produisant de la mousse d'ordure et en permettant la dégustation de celle-ci pour le prix d'un fauteuil de cinéma. Bien sûr, il faudra revenir sur ce faux libéralisme, peut-être généreux, mais sûrement imprudent, et dont les bénéficiaires ont été incapables de ne pas abuser. Mais je crois que cela en vaut la peine, pour d'évidentes raisons de salubrité publique d'abord, et aussi de vraie liberté, la liberté de nos regards et la liberté de nos choix. À samedi prochain.
En cherchant au plus profond de moi, mes émotions, mes fantasmes resteraient-ils les mêmes ?
Femme qui parlait dans les radios, on devine derrière vos voix des yeux, des visages, des seins, des jambes, une façon de respirer, de porter la poitrine, la façon dont elle se soulève pour faire penser à la mer. Il y a l'accent, c'est bon l'accent. C'est tout un pays qui sort d'une bouche, avec ses maisons, ses forêts, ses sentiers, ses usines. Et puis dans les voix, toutes les angoisses. D'où viens-tu? Où veux-tu? Quelqu'un m'aime-t-il? Est-ce que j'existe pour quelqu'un? Voix chérie, tendre, dorlotée sur les micro-sillons du rêve. Parfois, il vaut mieux n'entendre que les voix et ne pas vouloir voir le visage, ne pas vouloir percer le secret. Laissez parler les voix par le masque de la radio.
Les chroniqueurs, chroniqueurs, entendu sur cette radio-là, c'était Michel Droit. Et en voici un autre qui s'appelait Jean-Paul David. Et Jean-Paul David intervenait sur la radio avec ses chroniques. Il était député radical et il appartenait à Paix et Liberté. On s'est aperçu que Paix et Liberté était une organisation de propagande qui bénéficiait d'un apport de fonds américains tout à fait considérable, qui notamment s'était fait remarquer en diffusant à travers tout le pays des centaines de milliers d'affiches, ceci dans les années 50, contre le bolchevisme. Et dans son bouquin « 60 ans » d'ingérence en France, Frédéric Charpier montre comment la CIA présente en France a entre autres financé ce mouvement Paix et Liberté et Jean-Paul David intervenait sur notre radio
nationale.
Je vous parle aujourd'hui, mes chers compatriotes, au soir d'une journée de fête. Noël, date ancestrale qui rassemble jusque dans les plus modestes foyers tous les membres des familles dispersées. Noël, mot magique à l'oreille des enfants pour lesquels il est synonyme de jouets et de fêtes. Noël, jour d'espoir et de renouveau, où la ferveur des croyants se mêle à la joie générale. Noël, un répit dans la lutte quotidienne de l'existence. Dans le monde entier, la tradition est respectée. Le cercle de toutes les familles s'agrandit et s'affirme. Les grands oublient pendant quelques heures les difficultés de tous les jours. Les petits, émerveillés, reçoivent des cadeaux dont les plus humbles sont accueillis avec des cris de joie. Hélas, au soir de cette journée, nous sommes bien forcés de constater avec mélancolie que cette année encore, tout le monde n'a pu fêter Noël en famille. Et notre pensée émue va vers ceux qui, loin de nous, passent un sombre Noël. Vers ceux qui, au milieu des dangers en Indochine et en Corée, défendent un idéal qui nous est cher, un idéal de liberté et de paix, et qui nous ont permis de célébrer Noël dans la douceur et le recueillement. Vers ceux, aussi, qui naguère, n'auraient eu garde d'oublier la célébration de cette fête qui revêtait pour eux une importance particulière et faisait revivre des traditions et des coutumes séculaires. Vous entendez bien, mes chers compatriotes, qu'il s'agit de nos frères d'au-delà du rideau de fer qui, dans ce domaine, comme dans bien d'autres, ont été contraints de se plier à une vie que nous avons la joie de ne pas connaître. N'avons-nous pas appris, en effet, par des informations diverses mais qui se recoupent, que dans les démocraties populaires, peu à peu, et sans qu'il y paraisse toujours, on liquide Noël, et qu'on enlève à cette fête son caractère traditionnel pour en faire une manifestation banale, dépouillée de tout ce qui, jusqu'ici, en faisait le charme. Et c'est ainsi que, depuis quelques années, l'Union soviétique a officiellement remplacé les fêtes de Noël par celles du Nouvel An. Les arbres du premier de l'an se sont substitués à ceux du Noël et sont, dans la plupart des cas, décorés de faucilles et de marteaux, alors que partout s'étale le portrait de Staline, nouvelle divinité imposée. Ainsi donc, dans toutes les nations soumises au pouvoir dictatorial de Moscou, les mesures sont prises pour faire disparaître dans les esprits et les cœurs de la jeunesse jusqu'au souvenir de cette fête universelle. Il est indispensable, pour le maître du Kremlin, d'anéantir les consciences comme il a su mater les corps, d'empêcher la survivance des croyances et des fêtes séculaires pour les remplacer par la nouvelle adoration que vous savez. Vous, tous qui m'écoutez, ne croyez-vous pas que la liberté dont nous jouissons chez nous et qui permet à chacun d'exprimer ses convictions et de manifester ses sentiments comme bon lui semble, est préférable à cette mise en tutelle odieuse qui heurte les pensées les plus profondes et les plus nobles. Jouissez de cette liberté, mes chers compatriotes, et passez une douce soirée.
Vous avez entendu l'émission « Paix et liberté ».
Fabrique l'opinion. Là, c'est déjà un peu plus indirect avec Jean-Paul David. Et il n'y avait pas que sur France Inter qu'on entendait ses voix et sur ce ton. Sur Radio Luxembourg, nos concurrents, on entendait Geneviève Tabouy. Attendez-vous à savoir, pendant des années et des années, pendant 18 ans, de 49 à 67, Geneviève Tabouy débitait les dernières nouvelles de demain. C'était une très grande journaliste, extrêmement pointue, extrêmement pertinente, très très écoutée. Sauf que, eh bien, par la suite, on a découvert qu'elle profitait, elle aussi, de soutien, mais c'était de l'ambassade soviétique. Denis Maréchal, qui est son biographe, a découvert que Geneviève Tabouy recevait mensuellement 5000 francs, je ne sais pas ce que ça représentait, mais ça devait être une somme correcte, de l'ambassade soviétique dans les années 30. Voilà, Geneviève Tabouy qui parle d'une chose dont on parle encore beaucoup aujourd'hui, notamment nous dans la base où j'y suis, les lobbies aux États-Unis.
Geneviève Tabouy, les dernières nouvelles de demain. Mesdames, messieurs, attendez-vous à savoir.
il n'y a qu'au Congrès qu'on trouve dans les couloirs et les coulisses une étonnante organisation, celle des lobbyistes, dont le métier est le lobbyisme ou organisation scientifique du piston. Aucun parlementaire à Washington n'ignore que ces importants importants ont derrière eux un grand nombre de leurs électeurs et qu'ils sont les porte-parole de l'opinion publique. La plupart des grandes entreprises industrielles en Amérique, entreprises financières ou commerciales notamment, ont ainsi au Congrès à leur service des employés bien spécialisés dont les fonctions avouées et connues de tous consistent à défendre auprès des parlementaires les intérêts de ces entreprises. Et on prétend que la corporation des lobbyistes n'est pas loin de disposer d'un budget annuel de plus de 100 millions de dollars.
Geneviève Tabouy, en 1952, la façon de procéder est un petit peu plus indirecte. On va en faire un saut dans le temps, on va venir à notre époque, ou presque, il y a peu de temps. Alexandre Adler que vous connaissez, qui est un grand commentateur, grand politologue, historien, omniprésent et omniscient, Alexandre Adler, qui, en 2003, vous vous souvenez de 2003, l'Irak, les armes de destruction massive qui se sont avérées un mensonge phénoménal, eh bien, voici comment, sur les ondes, alors non pas de France Inter, mais de France Culture, Alexandre Adler en parlait.
France Inter.
Que des armes de destruction massive aient existé en Irak, ça n'a fait aucun doute, puisqu'il suffit de se rendre dans le Kurdistan irakien pour voir encore des femmes accoucher d'enfants monstrueux, et ceci ne devrait pas faire si grand problème. Deuxièmement, il est clair qu'il y avait un programme nucléaire irakien. Troisièmement, il y a aussi, bien sûr, des stocks non expliqués de gaz de combat, par exemple de l'anthrax, et je me borne là aux observations de Hans Blix, le dernier inspecteur suédois, qui était notoirement favorable à Saddam Hussein. Donc, ces armes de destruction massive, beaucoup plus bien sûr du chimique et sans doute pas mal de bactériologique et très peu de nucléaire aujourd'hui, ont existé où il était tout à fait évident que Américains et Britanniques étaient fondés à croire qu'ils existaient. Le débat reste d'ailleurs entièrement ouvert sur cette question. Mais sur l'existence de ces armes et le danger qu'elles représentaient, comment peut-on accuser légitimement Tony Blair ou George Bush d'y avoir cru? Mais l'acharnement avec lequel un certain nombre de personnages dans l'opinion britannique se jettent aujourd'hui sur Tony Blair reflète évidemment tout autre chose. Il reflète la haine qu'une partie de l'Angleterre, l'Angleterre de Chamberlain, l'Angleterre pacifiste, l'Angleterre pro-fasciste, éternelle, essaye de déchirer à belles dents un homme qui, naïf comme on veut, publicitaire comme on voudra, est quand même le dernier héritier de Winston Churchill.
La fabrique de l'opinion par les chroniqueurs sur nos radios. On ne sait pas très bien là en fait si c'était sur France Inter ou sur France Culture, ces commentaires d'Alexandre Adler. Mais là, c'est les commentaires qui viennent, la chronique qui vient, elle est bel et bien de France Inter. C'est notre ami Bernard Guetta qui, en 2005, vous vous souvenez, 2005, le traité de constitution européen. Et oui, les journalistes, de façon générale, étaient absolument tous partisans du oui, et y compris sur notre radio ici, la plupart des journalistes étaient partisans, militaient quasiment pour le oui. On sait le résultat. Un sondage qui avait précédé ce référendum indiquait que à Paris, 65% de l'opinion était favorable au oui, alors que dans le reste du pays, comme l'on dit, 56% étaient favorables au non. Ça marque le clivage qui existe de plus en plus entre Paris et le reste du pays. Or, c'est à Paris que s'élaborent ces pensées, ces chroniques et ces doctes expertises.
France Inter, il est 8h17, géopolitique. Bonjour Bernard Guetta.
Bonjour.
Que se passerait-il si le non l'emportait le 29 mai prochain ?
La Terre ne s'arrêterait pas de tourner, l'Europe n'en reviendrait pas non plus aux guerres des siècles passés, les avocats du non ont raison de dire que ce ne serait pas la fin du monde, mais le monde s'en porterait-il mieux? La réponse est non. Non seulement il serait long et difficile de recoller les morceaux après un non français, mais ayant rejeté l'actuel projet de constitution sans offrir de projet alternatif, ayant réduit à néant un effort commun par le seul effet de son bon plaisir, la France n'aurait ni les idées, ni le crédit nécessaire pour reprendre les rênes politiques de l'Europe. C'est une terrible erreur que la France est à la veille de commettre.
Liberté d'opinion du chroniqueur et de l'éditorialiste qu'il faut absolument respecter, bien évidemment. Et en matière d'erreur de jugement, il suffit d'écouter quotidiennement là-bas si j'y suis pour savoir de quoi il retourne, bien évidemment. Alors, un autre chroniqueur, si on est dans l'influence sur l'opinion, comment la radio influence l'opinion et fabrique l'opinion et la sensibilité commune, on ne peut pas ne pas évoquer Jean-Marc Sylvestre, qui a très longtemps sévi sur notre radio et qui a été un chantre engagé et zélé du néolibéralisme. Voilà l'une de ses chroniques, le 15 mai 2008, les fonctionnaires.
Les fonctionnaires ont des problèmes de pouvoir d'achat comme beaucoup d'autres salariés, c'est vrai. Ils ont des problèmes d'effectifs au travail, c'est vrai. Ils ont des problèmes de visibilité, de carrière, d'image également. La position des fonctionnaires a évidemment beaucoup évolué ces dernières années. Elle est moins valorisée, moins enviée qu'autrefois. Mais ceci dit, ce ne sont pas des catégories sociales qui sont en France les plus à plaindre et complètement protégées du risque du chômage. Ils jouissent aussi de conditions de travail qui sont quand même moins draconiennes que dans le privé, souvent au niveau des horaires ou même au niveau de la retraite. Alors,
vous les mettez à part, là, hein, de la société française.
Un petit peu. Enfin, c'est pas moi, mais ce sont les sondages, les études les mettent à part. Et les syndicats de fonctionnaires ne sont sans doute plus assurés aujourd'hui d'avoir le soutien de l'opinion publique comme autrefois. En gros, j'y vois deux raisons principales. La première, c'est que le coût global de la fonction publique est devenu insupportable à l'économie française. Et je crois que la pédagogie est entrée dans l'opinion publique. La France n'a plus les moyens, qu'on le veuille ou non, et ça c'est ni de droite ni de gauche, elle n'a plus les moyens de consacrer plus de 50% de sa production, de ses richesses produites, au financement de la dépense publique. D'autant que cette dépense publique est à plus de 80% une dépense de fonctionnement, c'est-à-dire une dépense de personnel, une dépense d'effectif. Si cette dépense était une dépense d'investissement, on pourrait se dire on va la retrouver plus tard. Mais non, c'est une dépense de fonctionnement. Et le gros de la dépense publique de fonctionnement se retrouve où ? Eh bien, se retrouve dans l'éducation nationale, d'où l'effort de réforme particulier entrepris par Xavier Darcos. Et puis la deuxième raison, c'est que cette fonction publique ne paraît plus efficace à l'usager. Elle n'a pas fait comme dans les grandes entreprises privées, des restructurations, des modernisations, des adaptations aux contraintes de la modernité qui lui auraient permis d'être sans doute plus productive, même si parfois c'est considéré comme un gros mot. C'est vrai à l'école, c'est vrai à Bercy, c'est même vrai à l'hôpital. C'est une question d'organisation, de management, d'intéressement aussi des personnels. Après tout, je vais dire une grossièreté, mais on pourrait peut-être inventer des systèmes d'intéressement ou même, allons-y, de stock option pour les agents de la fonction publique. Mais pourquoi pas, après tout.
Dormez en paix, ça ne pouvait pas durer, tu me l'as prouvé pour ne pas changer. 7h du matin, à nouveau je te dis déjà, je t'en supplie, baisse un peu la radio. On est tous les deux en voiture, mais tu remets ça, je t'en supplie, baisse un peu la radio. Est-ce que c'est bientôt fini? Est-ce que c'est bientôt fini?
chanter les derniers succès. Autant que toi ne l'oublie pas, oui j'ai madame oh. Mireille Mathieu avec son credo. J'aime Hallyday et les autres aussi, oui, mais j'aimerais bien dormir la nuit.
Geneviève Tabouille, les dernières nouvelles de demain. Mesdames, messieurs, attendez-vous à savoir.
France Inter, il est 9h06, comme chaque samedi à la même heure, la chronique de Michel Blanc.
Les chroniqueurs à la radio, ceux qui parlaient autrefois directement, cachent de façon polémique, et comment peu à peu, ça change, les masques changent, mais l'intention est quand même toujours la même, et toujours la même interrogation entre le pouvoir politique et les voix que vous entendez, l'indépendance réelle ou supposée ou imaginée par les uns et par les autres. En matière de chronique, il y a beaucoup de chroniques, évidemment, sur la radio de façon générale. Là, on a pris les chroniques politiques, mais il y en a de très, très singulières, et c'est avec ça qu'on va finir aujourd'hui, si vous voulez bien, un chroniqueur tout à fait singulier, stupéfiant, qui s'appelait Jean-François Noël. Les colères de Jean-François Noël, c'est ainsi que s'intitulaient ses interventions dans une émission du dimanche après-midi qui s'appelait « Dimanche dans un fauteuil » qui a précédé, qui était l'ancêtre de notre cher Oreille en coin. Jean-François Noël, 1959, c'est pas le moment.
Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quoi que vous fassiez, c'est jamais le moment. Entreprendre, investir, construire, inventer, créer, agir, c'est pas le moment. Rappelez-vous, mes maîtres, notre avant-guerre, il y a déjà quelque temps, hélas, où des vieillards qui allaient courir plus vite qu'on ne le croyait répétaient sans cesse à notre jeunesse, c'est pas le moment. Et puis, ce fut la guerre, encore dans toutes les mémoires. Et puis, l'occupation, naturellement, c'était pas le moment. À la libération, on nous a dit... Il faut attendre. Attendez encore un peu. C'est pas le moment. Attendez, mon cher, la prochaine combinaison. Vous n'allez pas entrer dans le gouvernement. Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? À votre âge, acheter un appartement, c'est pas le moment. Revendre votre voiture. Réfléchissez, c'est ridicule. Voyez l'argus de cette semaine, c'est sûrement pas le moment. En cas de malheur, dans 5 minutes, on fait la quête. Vous tombez, cher ami, comme Mars en carême. Il y a les classes creuses et le dernier quart d'heure, l'inspection, l'inspecteur, l'inspecté, le bilan et le pont des soupirs, les examens de fin d'année et les conseils de révision. Excusez-moi, je ferme la barrière, le rapide est en marche. Avec la serrure, les enfants, c'est pas le moment de jouer. Laisse ton père. Le rédacteur en chef sifflote en revenant de la revue. Et l'amour s'écrit visant au cœur. Bon à tirer. Un moribond m'a dit d'une voix de stentor, surtout qu'on ne me dérange pas et sous aucun prétexte. C'est pas le moment. Babette s'en va en guerre. La concierge est dans l'escalier. Allô, chérie, rappelez-moi. Oui, c'est ça, écrivez-lui et téléphonons-nous. Vous n'allez pas vous mettre en grève. Le patron part pour Abidjan. C'est pas le moment. C'est pas le moment de rater le dernier métro. Alors, nous ne la ferons jamais, cette grande lessive qui s'accumule depuis tant d'années. Qui ramènera nos cheminées? Qui repeindra la grille et l'escalier du grenier, puisque c'est jamais le moment? C'est pas le moment non plus d'acheter des draps pour nos belles infidèles. Laissez-les donc tourner entre elles, danser des valses lentes, des bostons et des blouses, jusqu'à ce qu'elles en crèvent. Quand pourrons-nous revoir tous les copains, faire le tour de nos tombes, monter en marche dans les manèges? Citroën et Renault et Cousinet, le Duc, la traversée de l'Atlantique, Marco, les Gélicia et Danzer, Mondragon et le barrage du Quilou. L'Afrique bouge, c'est pas le moment. Mermoz et Saint-Exupéry, Desnos et Valéry, Ravel et Debussy, et Modigliani, et Messian, et Jarre, Pitoëf et Dulin, c'était pas le moment. Est-ce que l'on pourra la jouer jusqu'à la dernière chandelle, cette symphonie des adieux qui ne sera plus pour rire, ni pour déplaire au prince mécène. Et la paix, nom de Dieu! La paix des braves, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en dit au Caire? Qui ferait la terre plus ronde, nos amours plus légères? Seulement voilà, à ce qui paraît, c'est pas le moment.
Donc François Noël, merci à tous, on déborde, on est en retard, merci à tous. Toutes les informations sont sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas, si j'y suis. Sur le site labas.org, vous pouvez réécouter cette émission à la technique aujourd'hui. Pauline Laverdure et Julien Chabassu. L'émission a été réalisée par Franck Adhérer, Guillaume Géraud et Corinne Guyenne qui a donné un coup de main. Le tout préparé avec Jonathan Duong, Stéphanie Fromentin. Quant à elle, attend vos messages. Ça va chauffer sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40. 37 37, c'était France Inter, fête ses 50 ans, mais tout le monde ne sera pas sur la photo. On se retrouve demain sur le même thème, vous vous en doutez, à 15h pour la basse, si j'y suis. Tout de suite, on retrouve Hervé Pochon avec son temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous faisiez en 1963?
En 1963, mes questions.
Vous aviez quel âge?
14 ans. Donc j'étais à l'école.
Ah ouais.
Ouais.
Et vous viviez où?
En Charente.
Et vous écoutiez quoi comme radio?
Mais j'étais jeune, alors je ne m'occupais pas trop de la radio.
Je vous laisse servir, vous avez une cliente quand même. Hein. Et madame, je peux vous demander ce que vous faisiez en 1963?
J'étais chez mes parents et j'écoutais RTL, moi. Donc, c'était la famille du raton, surtout, je me rappelle.
Le jeu des 1000 francs.
Et le jeu des 1000 francs.
Ah, ben, le jeu des 1000 francs, c'était sur France Inter.
Ah, allez, bien, alors, on devait changer tout le temps, alors. Oui, la famille du raton, c'était le soir. Et France Inter, c'était le midi, effectivement. Voilà.
Et je peux avoir votre prénom?
Catherine.
Et alors, vous allez où, Catherine?
Je rentre chez moi, je vais à Troyes dans l'Aube.
Ben alors, bon voyage.
Je vous remercie. Bien. Bonne journée.
Merci, vous aussi. Bonjour à tous et bienvenue à Libourne. Alors, vous l'avez compris, France Inter a 50 ans, pourquoi pas fêter ça à Libourne? Et alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui?
Là, je vends de la presse et du tabac. Après, je vais distribuer des prospectus.
Vous avez deux métiers?
Voilà, deux métiers et je suis à la retraite.
Et c'est pour le plaisir ou c'est parce que c'est difficile de vivre?
Voilà, par nécessité.
Ah oui, parce que vous avez une retraite de quoi?
J'ai une retraite, j'étais employé comme barman et malheureusement dans l'hôtellerie c'est très peu payé.
Votre retraite de barman c'est combien?
660 euros par mois.
Et je peux vous demander votre âge aujourd'hui?
J'ai 64.
64 ans. Ouais. Et je peux avoir votre prénom monsieur?
Jean-Michel.
En tout cas, je vous remercie et puis je sais pas, je vous souhaite du bonheur.
Voilà, surtout la santé.
La santé?
Bon. La santé.
Je peux vous demander ce que vous faisiez en 1963, monsieur?
En 1963, je travaillais dans un quotidien qui n'existe plus, que j'ai ruiné, qui s'appelait Paris Presse.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'être journaliste?
Quand j'avais 11 ans, je voulais être journaliste. Je lisais à l'époque Tintin. Et c'est pas Tintin vraiment qui me passionnait, c'était Haddock déjà, l'ivrogne. Mais non, je trouvais qu'il était un peu trop beau jeune homme, bon jeune homme, Tintin. Haddock, c'était plus iconoclaste, ça me plaisait beaucoup plus. Et il y avait dedans des... Bien que mon père me disait « Arrête de lire tous ces illustrés », comme il disait, « Tu feras rien dans ta vie », etc. Ce qui me plaisait, en fait, dans Tintin, c'était les voyages. Tintin voyageait sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ce qui, il n'y avait pas de... On ne le voyait jamais assister à une conférence de rédaction, on ne le voyait jamais, disons, faire quelque chose d'essentiel dans ce métier, quand même. Et on ne le voyait même pas écrire ses articles. Mais il voyageait sans arrêt. Un jour à Chicago, un autre jour au Congo, etc. Moi, ça me passionnait vraiment. Et donc, à 11 ans, je voulais faire ça. Je ne savais pas du tout ce que c'était, bien sûr. Malheureusement, j'étais obligé de quitter l'école à 14 ans, après avoir passé mon service brillamment, je dois dire. Je l'ai chez moi encore, affiché sur un mur, mon certificat d'études en 1958. Mais évidemment, je ne suis pas devenu journaliste tout de suite. J'ai fait, comme disent les agents, mille métiers et mille misères. J'ai travaillé, ça s'appelait la RTF à l'époque. Enfin, c'était pas pour la RTF directement. Je faisais la sécurité, comme catcheur, hein, bien sûr. Je gardais les portes d'un studio. C'est passionnant. C'était à la porte de Versailles, au salon de la radio et de la télévision. Et il y avait un endroit qui s'appelait le Pont d'Argent. C'est là où passaient les vedettes du salon, les vedettes de l'époque, bien sûr. Et mon boulot, entre autres, c'était de servir un peu de garde du corps. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas grand risque. Et le spectacle sur le Pont d'Argent était présenté par un monsieur jeune homme, jeune monsieur plutôt, qui s'appelait Jacques Chancel. Et à Jacques Chancel, je lui ai cassé les pieds et je lui disais, mais moi, je veux pas devenir garde du corps toute ma vie. Moi, ce que je voudrais, c'est être journaliste. Je voudrais être journaliste, J'ai répété ça sans arrêt tous les jours. Et à la fin, il m'a dit, bon, écoute, viens me voir. Il était à l'époque directeur des informations dans un quotidien qui est également disparu, qui s'appelait Paris Jour. Je suis allé le voir et... voilà, et j'avais 17 ans.
J'étais 17 ans, vous avez eu votre première carte de presse.
17 ans et demi, oui. Oui. Ah oui, 62, en début 62. Et donc 20 004, vous rendez compte, ça fait, quand je dis ça à certains, ça fait loin.
On va développer tout ça. Claude Villers, ça me fait bien plaisir de vous rencontrer. Comme vous le savez, France Inter va avoir 50 ans, puisque France Inter a été créée en 1963.
Et je sais. Je sais, parce que moi, je suis rentré au printemps 64, en avril 64. Donc, je veux presque fêter 50 ans avec. Alors, un temps de change aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve demain.
Bonjour, c'est Jacques Vendroux. Je vous donne rendez-vous pour la 6e édition du Sportif Français de l'année des auditeurs de Radio France. Votez jusqu'au 31 décembre sur franceinter.fr pour choisir celui ou celle qui vous a fait le plus vibrer cette année. L'annonce du lauréat et de la remise des prix auront lieu le 15 janvier en présence des parrains Eunice Barbeur et Fabien Barthès.
Le Sportif Français de l'année en partenariat avec InfoSport Plus et Le Parisien aujourd'hui en France.
Vous écoutez France Inter, il est encore 16h. Les informations, Laetitia Gaillet.
Les groupes Lagardère et Daimler comparaîtront au tribunal correctionnel. Ils sont renvoyés aujourd'hui pour délit d'initié dans la vente de titres ADS début 2006. Les deux groupes sont soupçonnés d'avoir bénéficié d'informations privilégiées sur les programmes de l'A380 et de l'A350. Ils auraient ainsi vendu leurs titres 2 mois avant l'annonce d'un retard dans la livraison des avions. 7 anciens cadres dirigeants de ADS comparaîtront également, parmi eux l'ancien coprésident du groupe aéronautique européen, Noël Forgeard. L'Élysée confirme l'information donnée ce matin par Libération. François Hollande propose bien Jean-Louis Nadal pour prendre la tête de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Jean-Louis Nadal est l'ancien procureur général de la Cour de cassation. Il a remis d'ailleurs jeudi un rapport à Christiane Taubira, la ministre de la Justice, pour moderniser l'action du ministère public. Le travail le dimanche, le matin, la réforme fiscale l'après-midi pour Jean-Marc Ayrault. Le Premier ministre a reçu ce matin donc le rapport de Jean-Paul Bailly sur le travail dominical. Il a promis une loi l'an prochain pour clarifier les règles, mais le dimanche doit rester synonyme de repos pour la majorité. Concernant la réforme fiscale, lors d'une réunion à Matignon avec les ministres concernés, Jean-Marc Ayrault a lancé un message. Il est important que le groupe socialiste se mette tout de suite au travail. L'Auvergne lance sa 2e édition New Deal. La région propose aujourd'hui 100 offres d'emploi supplémentaires, toutes assorties d'une aide à la mobilité géographique. Ces nouvelles offres seront disponibles à partir de demain sur internet newdeal-en-auvergne.fr. Les candidats ont jusqu'au 18 janvier pour postuler. Alors comme pour les 100 premières offres proposées en novembre, les personnes recrutées bénéficieront donc d'un remboursement de loyer durant leur période d'essai. Et si la période d'essai est concluante, elles auront en plus un un accompagnement sur mesure pour faciliter leur installation en Auvergne et une aide pour la recherche d'emploi de leurs conjoints. Les secteurs à pourvoir sont les nouvelles technologies, la santé ou encore les services et l'agroalimentaire. Peu de bus et de tramway encore demain à Marseille. Le mouvement de grève entamé aujourd'hui a été reconduit dans les transports en commun marseillais. La grève porte sur les salaires, la pénibilité en fin de carrière et le retrait de 2 jours de congé. Deux personnes ont été tuées aujourd'hui dans un accident d'hélicoptère. Le drame s'est produit sur l'aérodrome de Coulommiers-Mauroux, en Seine-et-Marne. L'hélicoptère s'est écrasé pour une raison encore inconnue. Enfin, il avait cofondé le Festival du cinéma américain de Deauville. André Halimi était aussi l'auteur de nombreux documentaires, des portraits de Jean Cocteau, de Louis de Funès ou encore Charlie Chaplin. Il est mort hier à Jérusalem à l'âge de 83 ans. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
Tous les samedis à partir de 20h, le grand rendez-vous live de France Inter, présenté par Vali.
Cette semaine dans Live Me Do, au studio 105, Vincent Delerme débarque avec 3 pianos. 3.
Et nous lisons en parallèle, à 30 cm d'écart.
Jeanne Chéral en touchera un.
Des longs cheveux de 17 ans, que je nouais de temps en temps.
Ibrahim Alouf viendra avec sa trompette. Et Peter Peter ajoutera quelques notes pop.
Tente noir et tente gris, les chemins qui mènent au paradis.
Live Me Do. Pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous mercredi à partir de 18h30 devant la porte B de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter.
La place est toute chaude, Frédéric Claudet, on c'est à vous.
Bonjour Laetitia Gaillet, on vous retrouve à 17h pour d'autres informations.
A tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Je reçois aujourd'hui avec grand plaisir Tougan Sokiev, directeur musical de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse depuis 2008. Bonjour Tougan.
Bonjour. Frédéric.
Et puis en plus de ça, une carrière internationale très importante. Vous êtes aussi directeur de l'Orchestre Symphonique Allemand de Berlin depuis septembre 2012. Vous travaillez souvent en étroite collaboration avec le Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, avec le fameux Gergiev qui est né au même endroit que vous, en Ossétie du Nord, c'est ça ?
C'est la même ville, en Vladikavkaz.
La même ville. Bah, il faut nous décrire un petit peu comment on arrive à la musique quand on arrive de cette ville. C'est-à-dire, il y a déjà de la musique dans votre ville de
mais
naissance.
Écoutez, le Vladikavkaz, en général, Ossétie du Nord, c'est une petite république au sud de la Russie, c'est une république très très musicale. Les Ossétiennes, on est très musicales. On chante tout le temps, c'est comme le basque un peu, nord d'Espagne. Oui. On a musique tout le temps dans la famille. Mes parents ne sont pas musiciens, mais il a toujours musique folklorique ossétienne, classique, un peu de jazz, donc on chante toujours.
Alors pour qu'il n'y ait pas de jaloux, on va dire qu'on a aussi du chant basque en France. En Corse, il ne faut pas oublier la Corse, il y a du chant dans le Béarn. Enfin, parce que, attention, avec ces chanteurs très convaincus. Nous allons entendre tout de suite, si vous voulez bien, un extrait de la 5e symphonie de Tchaïkovski. En russe, on dit Tchaïkovski. Chez nous, on dit Tchaïkovski. Vous nous excusez.
Tchaïkovski.
Oui, voilà, Tchaïkovski, vous dites très bien aussi. Et c'est la valse. Pour vous, Tchaïkovski, c'est une forme d'idole. Parce que je me souviens, au conservatoire de Moscou, dans la grande salle, il y a le portrait de Tchaïkovski qui vous surveille, qui vous regarde.
Mais c'est le compositeur le plus célèbre en Russie. C'est le compositeur qui représente l'âme russe.
Ah, carrément. Et Prokofiev et Stravinsky.
C'est différent. Différents.
Mais ils sont déjà partis.
Mais c'est à cause du Tchaïkovski que Prokofiev existe. Oui. Sans Tchaïkovski, il n'y a pas de Prokofiev.
Oui, ça c'est vrai. Rostropovitch, qui était assis à votre place il y a quelques années, m'a dit exactement la même chose. Valse, Allegro moderato de la 5e symphonie de Tchaïkovski.